Je vois que les rangs commencent déjà à s'éclaircir un peu. Ah. Je sais pas si c'est le fait du samedi qui...
C'est bon aussi.
Je comprendrai assez bien que le samedi matin, on va y rester au lit.
On n'est pas le samedi matin. On n'est pas le samedi matin.
Est-ce que vous avez commencé à faire des recherches sur la bibliographie?
Oui.
Je vois que la réponse est assez unanime.
Oui.
Bah, sans plaisanterie aucune, ne tardez pas à vous procurer les ouvrages et à vous mettre à leur lecture, hein, de manière à avoir le temps de bien les digérer. Donc on va commencer si vous voulez bien. Oui.
Non, il y en a un qui est
oui, tout à fait. C'est pour l'examen. Donc l'examen, bon, on n'a pas les dates encore, mais généralement c'est la mi-janvier par là. Donc,
C'est celui-là qui est dur à trouver.
Donc je voudrais commencer et je demande donc stable le silence.
C'est pas la cinquième.
La semaine dernière, je vous avais donc, j'avais terminé là-dessus d'ailleurs, mais l'objectif du cours d'aujourd'hui, qui débordera peut-être un tout petit peu sur le cours de la semaine prochaine si je ne parviens pas à conclure, l'objectif d'aujourd'hui consiste à vous présenter un petit peu l'état d'un certain regard, l'histoire d'un certain du regard que l'on peut avoir en Europe sur les confins orientaux, finalement, de l'univers européen. Pourquoi finalement commencer par cette question de la représentation des confins orientaux par les Européens, alors que le sujet principal du cours demeure, bien évidemment, la question de l'auto-représentation et de la formation donc, de l'identité nationale au Japon? Tout simplement parce qu'en fait, la problématique de l'auto-représentation ne va pas sans le regard de l'autre. Hein, d'une certaine manière, l'identité se construit de manière altéro-référentielle, hein, comme on dit en gros mots. C'est-à-dire que le regard de l'autre est important pour porter ensuite un discours constructeur du regard que l'on a de soi sur soi. Donc il est évident que cette année, on va essentiellement se concentrer sur les éléments constitutifs qui ont permis au Japon de se poser comme État et aux Japonais comme peuple, donc l'élément constitutif de leur identité. Mais avant ça, j'aimerais donc parler du regard qu'on a pu avoir tout au long de l'histoire. Vous verrez qu'on commence assez loin en arrière, puisque on se met à parler des confins orientaux quand même assez très tôt dans le monde méditerranéen. Donc commencer un petit peu par cette histoire qui commence à l'Antiquité et puis qui se poursuit jusqu'à nos jours, pour essayer de montrer un peu quel a pu être le regard qu'on a porté sur le Japon, à quelles occasions, et finalement, est-ce qu'on peut en tirer une leçon pour nous qui nous proposons d'étudier sérieusement une société, une langue, une civilisation, qui ne souhaitons pas nous contenter de d'images un peu à l'emporte-pièce. Ce qui est intéressant dans le cas du Japon, mais c'est valable pour tout un tas de peuples qui ont été marginaux dans l'Antiquité, c'est qu'en réalité, le Japon existe dans la tête des Européens, le Japon et les Japonais existent dans la tête des Européens, avant même que le Japon et les Japonais existent pour le Japon et les Japonais. C'est un point qui est relativement important, hein. Le peuple japonais existe pour les Occidentaux avant même que le peuple japonais ne se soit défini lui-même comme peuple japonais. Et cette histoire est très 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 ancienne, et c'est donc cette histoire qu'on va essayer un petit peu d'aborder de manière synthétique quand même, hein, parce qu'on ne peut pas faire que ça, aujourd'hui, histoire de donner un petit peu de distance à la question de l'autoreprésentation qu'on va traiter donc toute cette année. Ce qui me fait commencer par l'histoire très 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 ancienne, une histoire de représentation des confins orientaux qui commence en fait avec les Grecs et les Romains, qui prennent connaissance de ces territoires des confins orientaux par l'existence de la soie. Les, sociétés grecques et romaines. Ce sont des sociétés pour lesquelles la soie est un bien précieux. On peut même parler de bien de prestige, qui est donc très 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 prisé. C'est par ce canal, par ce bien-là, que on va prendre connaissance finalement de territoires qui sont au-delà de ce qui est vérifiable par les moyens de l'époque. L'auteur le plus ancien qui fait mention de ces confins où on fabrique de la soie, où on produit de la soie, c'est un grec au 4e siècle avant notre ère, qui est médecin de la famille du roi de Perse, Artaxerxès II. Et c'est effectivement au 4e siècle avant notre ère, ce grec s'appelle Ctésias. C-T-E-S-I-A-S. Et le terme qu'il utilise pour décrire, pour définir, pour se référer à ces peuples qui sont auteurs donc de la soie, ce sont les serres. Les serres, on l'écrit en translittération actuelle, S-E accent R-E-S, les serres. Alors la question qui se pose là, c'est qui sont ces serres? En fait, la conclusion, je saute sur la conclusion, c'est que les serres n'ont en réalité pas d'existence. C'est une création. Un serre, c'est sericum. En latin, c'est la racine du terme qui donne le mot de soie, hein, en français de nos jours. Et donc, en réalité, les serres, ce sont les gens qui produisent la soie. On en fait un peuple qu'on met très, 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 très loin sur les confins orientaux du monde méditerranéen de l'époque, qui a pour centre encore à cette époque la Grèce. La Grèce et la Perse. Et c'est tout ce que l'on a comme renseignement par Ctésias. C'est-à-dire qu'en fait, les textes de Ctésias ne nous sont pas vraiment parvenus. Et on sait simplement que ce personnage de Ctésias parle des serres par une source secondaire qui est ultérieure qui est celle de Strabon et qui date du début de notre ère. Donc là, voyez, on saute tout d'un coup 4 siècles et on se retrouve dans la géographie de Strabon, qui est donc un historien du monde ancien, et qui donne quelques définitions un peu plus précises. Je mets une triple paire de guillemets au mot précis. En réalité, Strabon, tout ce qu'il nous dit de ses serres, il les tire de certains passages de sa grosse œuvre qui s'appelle donc les géographies. Dans ce livre, il y a un chapitre sur l'Inde et il y a un chapitre sur un autre royaume qui s'appelle la Bactriane. La Bactriane, c'est un royaume qui a été fondé par Alexandre. C'est un royaume grec d'Asie mineure qui recoupait les actuels territoires de l'Afghanistan, de l'Ouzbékistan et du Tadjikistan. Donc c'est déjà des confins pour l'époque. Et qui va permettre finalement de mettre en relation l'Asie avec le monde méditerranéen. Donc c'est l'importance de cette Bactriane, elle réside vraiment là-dedans. Elle ne connaîtra pas malheureusement un avenir bien pérenne, puisque finira par les invasions à se retrouver coupée du monde méditerranéen et à part disparaître. D'ailleurs, c'est un objet d'étude archéologique qui est ancien, puisqu'il y a des générations et des générations d'archéologues qui sont partis à la recherche de la Bactriane et de Bactre, sa capitale. On pense l'avoir retrouvée, hein, donc en Afghanistan. Et au moment où on l'a retrouvée, ça a coïncidé avec l'invasion soviétique en Afghanistan, ce qui fait qu'on n'a pas pu faire de fouilles étendues sur le site en question. Et ça m'étonnerait qu'on puisse faire des fouilles en Afghanistan d'ici un certain temps. Ce qui est dit donc dans Strabon, en recoupant ce qu'il y a dans son chapitre sur la Bactriane et sur l'Inde, c'est que donc les serres, le royaume des serres, se trouve aux confins, les plus à l'ouest, si vous voulez, de la Bactriane, et que ces serres, ces gens-là, avaient une longévité qui pouvait dépasser les 130 ans. Donc vous voyez que déjà, c'est ce qui est très, très intéressant quand on lit ces documents, c'est que l'information est bien hiérarchisée. vous lisez, hein, jusque-là, oui, alors ça serait localisé à tel endroit, il vivrait de tel type de commerce, et puis il vit jusqu'à 130 ans. Il y a un décalage qui, en fait, vous vient perturber la crédibilité de tout ce qui vient avant. On se demande même si les auteurs anciens, qui pratiquaient souvent, en fait, cette manière d'écriture, cette manière d'écrire, ne le faisaient pas exprès pour ménager un effet... À la fin, alors là, je vous ai dit des trucs extrêmement sérieux, et puis tout d'un coup, ouais, mais en fait, il ne faut pas exagérer, parce qu'on nous dit aussi qu'ils vivent 300 ans. Voilà, c'est 130 ans. Ensuite, un petit peu plus tard, au milieu du 1er siècle de notre ère, il y a un autre historien ancien, c'est Pline l'Ancien, Pline, à qui à son tour a un passage consacré aux cerfs, cerfs qui sont célèbres, dit-il, par la laine de leur forêt. Donc c'est intéressant, la laine de leur forêt, c'est la soie, hein, tout simplement. C'est-à-dire qu'on est à une époque où la soie est un bien envié, enviable, qui fait l'objet d'échanges à très 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 haut prix, mais dont on n'a absolument aucune idée de la manière de production. Donc on imagine que c'est dans les forêts, il y a des arbres qui donnent de la laine, et avec cette laine, on fait des tissus qui sont magnifiques, et ce sont les soieries. Pline détaille un petit peu plus. Alors oui, le livre, excusez-moi, le livre de Pline en question, c'est Histoire naturelle, ça s'appelle. Son ouvrage, ce sont des ouvrages qui ont été traduits, hein, si la plongée dans cette époque-là vous intéresse, ce sont des livres qui sont tout à fait trouvables, et je peux vous donner les chapitres, les paragraphes en question. Ce que dit Pline dans son bouquin, donc, dans l'histoire naturelle, c'est que au-delà des steppes occupées par les Scythes, ce sont donc des populations, enfin, des peuplades steppiques, les cerfs demeurent un peuple mystérieux. Donc on ne sait pas trop bien de quoi il s'agit, donc il met quand même un certain nombre de bémols. Et les témoignages sont de fait contradictoires, hein, dans le livre de Pline, vous allez voir, hein, un petit peu. On nous les dit tantôt civilisés, tantôt sans langage pour communiquer leur pensée, dans le même ouvrage. Dans le même passage, on nous dit que les cerfs dépassaient la taille ordinaire, qu'ils avaient les cheveux rouges, les yeux bleus et la voix rude. Oui, on est dans la construction, dans la fabulation la plus totale. Hein, bon. Tout ce que l'on peut dire finalement de ces... Enfin, le point commun qui revient dans tous ces textes du monde ancien, c'est qu'on insiste systématiquement sur la richesse obsédante des cerfs. C'est-à-dire que, alors tantôt on nous les décrit grands, tantôt on nous les décrit dénués de toute parole, tantôt on nous les décrit sauvages, tantôt on va nous les décrire très civilisés, mais le point commun qui revient, c'est de toute façon des peuples extrêmement riches et qui vivent très longtemps. On a un petit peu l'obsession de l'humanité, hein, là-dedans. C'est vouloir être très riche et surtout ne jamais mourir. Hein. Il y a un côté un peu... Enfin, on est en plein fantasme, quoi, si vous voulez. Toutes ces questions sur les cerfs, hein, que finalement personne n'a jamais vu, c'est que par oui dire, on ne sait pas bien où c'est, la localisation change en fonction des auteurs... toutes ces préoccupations vont finir par disparaître avec l'ouverture des premières routes de la soie. Hein, particulièrement donc au cours du IIe siècle, la systématisation du IIe siècle de notre ère, hein, là, je parle, la systématisation du commerce, qui prend pour objet donc la soie, et puis les épices aussi, on devrait dire, au travers de l'Asie, va conduire progressivement à la démystification. Non pas la démystification, parce que finalement on n'aura jamais le fin mot de l'histoire, mais on finira par ne plus trop s'intéresser à ces questions-là. Puis on va prendre connaissance du processus de fabrication de la soie, pour arriver finalement au VIe siècle, avec l'implantation des techniques de production de la soie dans le monde méditerranéen. Et on ne parlera plus jamais des cerfs. Donc vous aviez dans les brumes les plus éloignées du monde ancien... une peuplade, les cerfs, et c'était par ce terme-là finalement qu'on désignait ce que de nos jours on désignerait par le terme d'extrême-orient, si vous voulez, sans trop bien savoir quoi mettre dedans. Donc après les cerfs et l'extrême-orient en général, c'est autour du Japon et de ses habitants de faire l'objet au fil des 1000 dernières années, donc là je saute vraiment sur du plus récent, au fil des 1000 dernières années, d'un très large éventail finalement de représentations, de débats, d'enjeux sur lesquels je voudrais insister particulièrement aujourd'hui. Alors le premier événement qui signe l'entrée relativement durable, même s'il va y avoir des moments plus intenses que d'autres dans ses préoccupations sur le Japon, le premier événement qui signe donc l'entrée relativement durable du Japon dans le paysage mental des Européens, c'est le voyage de Marco Polo. Marco Polo, il naît en 1254 à Venise, dans une famille de commerçants, de négociants, et il meurt en 1324. Lui, il va partir sur la route de la soie et entrer en 1277 au service de l'empereur de Chine, qui à l'époque est un Mongol. C'est Kubilai Khan. Kubilai Khan, qui est le petit-fils de Gengis Khan. Alors Kubilai, ça s'écrit K-U-B-I-L-A-I, je le dis pour information, et Khan, c'est K-H-A-N. C'est donc le petit-fils de Gengis Khan. Et Kubilai, lui, il règne de 1274 à 1292. Bon, toute la famille de Marco Polo a une longue histoire, en fait, avec l'Extrême-Orient, dans la mesure, avec l'Orient et l'Extrême-Orient, dans la mesure où, en réalité, lorsque Marco Polo naît, son père et son oncle sont déjà entrés en contact avec l'empereur de Chine. Ils reviennent à Venise et il est décidé que Marco Polo repartira avec eux lors du prochain voyage. Et donc en 1277, Marco Polo entre au service de l'empereur de Chine de l'époque, donc l'empereur mongol de Chine de l'époque, Kubilai Khan. Il va être fait enquêteur et envoyé adjoint, c'est le titre qui va lui être donné. En gros, c'est le service d'information et de renseignement de l'époque pour tout ce qui concerne les marges occidentales de l'Empire chinois, de l'Empire de Chine, donc jusque l'océan Indien et tout ça. Donc finalement, cette partie de la route que maîtrisent très bien les Vénitiens entre le monde méditerranéen, entre l'Italie et, on va dire, le début de l'Asie, de l'Extrême-Orient. Marco Polo, il est l'auteur d'un livre qui s'intitule Le livre de Marco Polo. L'autre titre du livre en question, c'est Le devisement du monde. Peut-être que c'est un bouquin dont vous avez entendu parler. Il a été réédité, il est disponible en deux volumes dans une édition assez récente, je crois que c'est 2003 ou 2004, aux éditions de La Découverte, c'est pas très cher. Et Marco Polo parle du Japon. Donc, oui. Alors, il y a également ça. En 1277, donc, il est fait enquêteur et adjoint. Alors, il y a un aspect financier et puis il y a tout un aspect de renseignement, tout simplement. La Chine, comme ça, se dote d'un appareil, si vous voulez, de renseignement très cosmopolite sur les marges de l'Empire de Chine pour avoir... Voilà. Pour avoir du renseignement. La Chine veut savoir comment fonctionnent les Européens. La Chine veut savoir comment s'organise la route de la soie entre la Méditerranée et la Chine. Pour tout un tas de raisons évidentes de stratégie et de commerce. Mais après, bon, en gros, ça veut dire que Marco Polo est un fonctionnaire. Marco Polo, il arrive en pleine effervescence en Chine. Effervescence parce que c'est le moment où l'Empire chinois a envoyé à deux reprises des émissaires dans l'archipel japonais pour demander aux gouvernants, aux puissants, à l'empereur dans un premier temps du Japon, de céder sa souveraineté à celle de la Chine. Deux ambassades d'émissaires, une en 1263, une autre en 1268. Et donc Marco Polo arrive juste après cela, puisqu'il arrive en 1277. Ces deux ambassades sont très mal reçues au Japon, puisque finalement, la réponse du Japon, à chaque fois, c'est non, on ne cédera pas la souveraineté de l'archipel à l'empereur de Chine. La réponse, elle ne provient pas de la cour impériale, elle provient surtout des seigneurs féodaux de l'archipel. Vous vous souvenez, on en avait déjà discuté, c'est le XIIIe siècle, c'est la fin du XIIIe siècle, c'est la seconde moitié du XIIIe siècle, on est dans un univers où est en train de se constituer une culture qui est celle de la féodalité au Japon. C'est-à-dire de pouvoirs relativement locaux, militaires et à peu près incontrôlables. Et ces gens-là sont absolument pas disposés à, alors qu'ils viennent de s'émanciper finalement du pouvoir central de Kyoto, du pouvoir impérial, ils sont absolument pas disposés à se retrouver sous la férule d'un souverain qui est encore plus lointain. Il va s'ensuivre deux grandes campagnes militaires qui sont les invasions mongoles. Les invasions mongoles, en fait, c'est des invasions chinoises hein, pour les Japonais. Il se trouve simplement que les empereurs de Chine à l'époque sont mongols. 1274-1281. Donc Marco Polo, quand il est nommé enquêteur en 1277, finalement, il arrive entre les deux campagnes. Deux campagnes qui se soldent par deux grandes défaites des forces d'invasion du continental. Je dis continental parce qu'en fait, le contingent militaire, il est extrêmement varié. Il y a des Mongols, il y a des tribus différentes de Chine, il y a des Coréens, il y a un peu de tout. Hein. C'est une armée extrêmement volumineuse. Échec, non pas parce qu'il y a une supériorité militaire de la part des seigneurs féodaux japonais, mais parce que, bon, d'abord, il y a plusieurs débarquements qui se font avec succès. Mais tout de suite, l'intendance ne suit pas, puisqu'en fait, les bateaux sombrent du fait de tempêtes. C'est le mauvais temps qui fait couler les navires, les nefs de transport mongols, qui emportent les équipages, et puis qui surtout interdisent totalement toute retraite aux troupes débarquées dans l'archipel. Ce qui, évidemment, va s'avérer un problème assez insurmontable pour les troupes débarquées sur les côtes de l'archipel, puisque tout le monde va être massacré. Et c'est de cette époque que date l'expression kamikaze, hein, les vents divins, puisque donc il y a une tempête qui fait sombrer les navires, donc kamikaze c'est littéralement les vents divins. Ces deux tentatives d'invasion sont désignées par l'historiographie japonaise comme invasion mongole. Alors en Europe, les invasions mongoles, c'est quelque chose de beaucoup plus général, qui s'étale sur plusieurs opérations qui touchent le continent et tout. Dans le cas du Japon, ça concerne essentiellement ces deux campagnes qui sont donc soldées par des échecs et qui se termine vraiment dans un bain de sang assez généralisé, puisque les troupes prises par exemple à Tsushima, c'est des milliers et des milliers et des milliers de fantassins, sont tous passés au fil de l'épée. Alors, Marco Polo, il est témoin, finalement, de ces campagnes-là. Témoin lointain quand même, puisqu'il n'est pas sur le théâtre des opérations. Hein. Je vous rappelle qu'il est enquêteur pour ces marges, on va dire, les plus occidentales, finalement, de la Chine. Mais en tant que fonctionnaire, il est quand même au courant des préoccupations du gouvernement central chinois à l'égard de l'archipel. Alors, il y a une petite série de questions qu'il faut se poser par rapport à ces invasions. C'est pourquoi, qu'est-ce qui a pu pousser les troupes mongoles à vouloir envahir l'archipel? Une bonne connaissance, si vous voulez, de la situation dans l'archipel aurait dû dissuader des militaires aguerris comme les Mongols de tenter une invasion, à mon avis, dans la mesure où il ne s'agit plus d'un gouvernement central, où il suffit simplement de mettre le siège à la capitale, de décapiter le gouvernement central, de prendre le pouvoir, mais qu'on est dans une société où le pouvoir politique est complètement éclaté chez les seigneurs féodaux, enfin, chez les féodaux, quoi, si vous voulez. Hein. Tous les grands seigneurs de l'archipel ont des velléités d'indépendance, et c'est à peu près absolument impossible d'arriver à conquérir une telle ampleur et une telle masse, en fait, opposant une résistance possible de tous les instants et sur une très très longue période de temps. Alors il y a une explication, c'est que les Mongols se sont fait pigeonner par les Coréens. Ça c'est un peu le serpent de mer, ça ressort dans l'historiographie. Il semblerait que les en fait, la Corée, qui s'est toujours retrouvée finalement prise entre l'archipel et la Chine, en disant que oui, le Japon, ça serait peut-être bien à envahir, qu'il y a une grande désorganisation du pouvoir politique, ce qui était vrai, hein. Il y avait une grande désorganisation du pouvoir politique, mais qui du coup rendait le pays encore plus difficile à conquérir. Et que par conséquent, c'était très probablement un pays relativement facile à conquérir. Et en faisant cela, c'est vrai que du coup, les troupes mongoles ne s'arrêtent pas en Corée. Elles continuent dans l'archipel et elles pratiquent une conquête militaire de l'archipel, dans l'idéal. Bon, le problème, c'est qu'effectivement, les Mongols débarquent dans l'archipel, ils se retrouvent face à des tas de gens qui, sur le plan culturel en plus, sont en train de se fabriquer une identité qui est celle du cheval, de l'arc et de l'épée, si vous voulez. Et donc ils se retrouvent face à une aristocratie guerrière pour laquelle, je veux dire, combattre, au contraire, c'est très bien, c'est une manière de se glorifier et d'obtenir encore plus de légitimité politique par rapport à un gouvernement central d'origine antique au Japon qui passe son temps finalement à perdre de l'influence. Donc en réalité, même si l'équilibre des forces n'est pas évident à évaluer, sur le plan idéologique, cette invasion cette invasion mongole, elle joue le jeu finalement de la culture de la guerre et qui est en train de s'instaurer chez l'aristocratie guerrière japonaise. Évidemment, donc les Mongols, pour des raisons, on va dire, climatiques, ont leur flotte défaite. Mais sur le terrain lui-même, ça se passe extrêmement mal. Ils n'arrivent absolument pas à pénétrer à l'intérieur des terres, même si les combats sont très violents. Et lorsque finalement ils retournent sur le continent, forcément les Mongols ne sont pas contents. Et les Coréens sont bien embêtés. Et bon, on a tout un tas de textes qui expliquent comment ça s'est très mal passé, finalement, le retour des troupes sur le continent, pour les pauvres troupes qui ont pu retourner sur le continent. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Marco Polo, lui, parle très peu, en fait, de ces guerres, mais il décrit de manière parfois un peu sibylline et surtout assez rapidement ce que c'est finalement le Japon. À l'époque, il parle de Sipango, lui. Le terme qu'il utilise pour désigner le Japon, c'est Sipango. Le terme de Japon n'existe pas. Ce qui est une déformation du terme chinois. Oui, le terme de Japon, bah, sachez-le, en fait, c'est un terme qui vient du portugais, lui-même venant d'une déformation du terme chinois par les Malais. Hein, donc la généalogie du terme est compliquée, quoi. Oui ? Bah, c'est-à-dire que, oui, c'est ça le problème. C'est que, d'abord, lors du premier débarquement, en fait, la flotte est vraiment perdue avec les hommes. Donc il y a très peu d'hommes qui débarquent. Donc ils se disent, on n'a pas eu de chance. La deuxième fois, ils se préparent encore plus. Ils arrivent à faire débarquer des hommes, mais la deuxième vague est coulée à nouveau par les tempêtes. Mais il y a quand même un contingent extrêmement important qui arrive à débarquer sur les côtes de l'archipel. Sauf que là, on les attend. Alors que la première fois, on les attendait pas tant que ça, en fait. Oui ? Alors le premier débarquement, c'est 74. Et le deuxième, c'est 81. Non, oui, c'est ça. 74-81. Oui ?
Quand les Chinois disent que les Japonais, les barbares, les Japonais ne reconnaissent pas une partie de l'histoire, c'est de ce genre de...
Alors non, là, on parle davantage de l'histoire coloniale. C'est l'histoire du 19e et du 20e siècle. On en parlera. Hein. On reviendra vraiment sur ces questions-là, au moins pendant deux séances, dans le courant du semestre. Mais c'est encore autre chose. Je disais que... Oui, alors que Marco Polo... en fait, il parle de Sipango, et il dit de Sipango rien de très méchant, hein, dans le fond. Ça ressemble assez bien à ce que pouvaient raconter les anciens sur les serres, en fait. Il n'y est jamais allé. Les troupes mongoles qui ont débarqué, il n'y en a pas beaucoup qui sont revenus vivants, hein. Et du coup, dans les mots de Marco Polo, on voit surtout émerger les obsessions aussi du gouvernement chinois. Donc ce qui revient, c'est que le Japon est un pays isolé, fermé, relativement mal organisé, et surtout plein de richesses en or, avec des perles, des pierres précieuses qui poussent sur les arbres. Non, c'est moi qui invente pour le coup des arbres. Enfin, c'est un pays extrêmement riche, pareil, avec une richesse qui est vraiment obsédante. C'est pas très étonnant, hein, de toute façon, ce genre de discours venant de quelqu'un qui finalement est d'une famille de très très grands commerçants et négociants. Hein, cette espèce d'obsession pour la richesse, c'est dire si on est capable d'aller à l'autre bout du monde pour faire du commerce et devenir riche, on peut tout à fait imaginer que faire des sous, c'est quelque chose d'important pour Marco Polo. Hein. Oui. Voilà, c'est exactement ce que je vais dire. C'est-à-dire que on est encore une fois dans la construction imaginaire la plus totale. Au Japon, à cette époque-là, il y a très peu de mines d'or, il n'y a aucune extraction systématique d'argent, il n'y a pas de pierres précieuses et il n'y a pas de perles. Donc on est dans la construction, c'est un Eldorado si vous voulez, c'est un Eldorado avant l'Amérique conquise par les Espagnols si vous voulez. Et on s'imagine donc le Japon, comme le Cipango, comme une contrée un peu mystérieuse, perdue dans les brumes, là, au-delà du continent, qui serait richissime. C'est aussi une manière de motiver les troupes, hein, ceci dit, dans le discours militaire des époques, surtout chez les Mongols, quand on sait comment ils faisaient la guerre, et d'une manière générale, quand on sait comment on faisait la guerre jusqu'au 19e siècle, c'est-à-dire que quand vous faisiez une guerre de conquête, vous donniez à vos hommes 2 semaines de ravitaillement, vous les faisiez partir, et après, il fallait vivre sur le pays. Donc on pillait, et la richesse était un des éléments de rétribution du soldat, du militaire. En fait. Oui. Voilà. Et c'est justement pour ça que ce temps-là, tout à l'heure, je disais que ça a été un moment important dans la forge, finalement, de l'identité de ces guerriers. C'est qu'alors qu'ils se détestaient tous, et qu'ils essayaient tous de tirer un peu la couverture à eux, au moment de ces invasions, ils se sont réunis et il y a vraiment eu une conscience d'une classe sociale particulière qui était celle de l'aristocratie guerrière. C'est-à-dire que finalement, la conscience de l'aristocratie guerrière, en tant qu'aristocratie guerrière, elle apparaît vraiment à cette époque-là. Le fait que ce sont les derniers remparts finalement contre les envahisseurs va vraiment leur donner une légitimité politique qui est redoutable. Et va vraiment servir à la constitution en fait, des généalogies des grandes familles militaires qui vont après évoluer dans l'archipel. Donc oui, c'est vraiment un moment qui va être l'occasion de mettre tout le monde d'accord. Bon, c'est société féodale, donc ces alliances, elles ne durent pas très longtemps dans le fond. Mais ça va rester dans la légende, on va dire, de la culture des guerriers japonais tout au cours du Moyen-Âge. Et donc Marco Polo, un peu obsédé par les richesses, il rapporte finalement ce qui se disait déjà en Chine sur Cipango, savoir que c'est un pays extrêmement riche et que c'était donc bien de la peine d'aller le conquérir. Et que tout ça repose sur une bonne part de fantasmes. Et puis, grande parenthèse qui s'ouvre, on ne parle plus du Japon, on ne parle plus de Cipango. Cipango redisparaît relativement durablement jusqu'à ce que il soit redécouvert, entre guillemets, c'est-à-dire qu'à nouveau des populations importantes de l'extérieur y débarquent avec l'arrivée des jésuites au Japon. Et là, on est au XVIe siècle. Le XVIe siècle, c'est le moment du début de l'histoire du catholicisme au Japon. Bon, ça, c'est pas un scoop, mais ça va avoir des répercussions au Japon, bien sûr, et ça va avoir des répercussions beaucoup en Europe, puisque bon, ben, les jésuites, ce sont des gens qui écrivent beaucoup, qui écrivent des livres, des dictionnaires, ce qui fait qu'en fait, l'appareil jésuite au Japon va avoir une production extrêmement riche, qui constitue un outil de connaissance absolument exceptionnel sur le Japon de l'époque. On sait par exemple à la hauteur du XVIIIe siècle qu'on avait des centaines et des centaines d'ouvrages en latin, tous de la main des jésuites, sur le Japon, lesquels sont perdus de nos jours. Mais ça veut dire qu'à l'époque, il y avait véritablement des outils, de compréhension, de compréhension, en tout cas d'étude, et de rendre compte de ce qu'était l'archipel à cette époque-là. Oui ? Alors j'y viens. En fait, ça commence avec un personnage que tout le monde connaît au Japon, donc autant que vous le fixiez dans votre mémoire, c'est Saint François Xavier. Bon, c'est François Xavier, hein, il est saint accessoirement. Enfin, il est saint qu'une fois qu'il est mort. Hein. Qui est donc jésuite basque espagnol. Enfin, il est basque, quoi. Et c'est un grand missionnaire envoyé par les Portugais pour évangéliser les Indes orientales. Donc en fait, le Japon entre dans les préoccupations du jésuite à l'intérieur d'une plus grande préoccupation qui est celle d'évangélisation de ce qu'on appelait à l'époque les Indes orientales, incluant là-dedans l'Extrême-Orient également. Alors François Xavier arrive en 1542, lui, à Goa. Donc on va dire qu'il est en Asie au début des années 40 du XVIe siècle. Puis de là, il va se lancer dans des campagnes de conversion qui marchent exceptionnellement bien. Enfin, c'est quelqu'un qui est très efficace dans son travail. Le christianisme semble plaire, sans qu'il y ait à manier trop le sabre. Enfin, en fait, il ne le manie pas, puisque les contingents jésuitiques à l'époque sont des contingents qui ne sont pas... c'est des hommes d'église, c'est pas des hommes armés dans ce cas-là. Puis ensuite, il va jusqu'à Taïwan. Une fois que vous êtes à Taïwan, vous n'êtes pas loin des Ryukyu, hein, donc c'est Okinawa, tout ça. Et puis, en 1545, il est à Malacca, donc il redescend. Hein. Et puis enfin, il saute le pas, et en 1549, il débarque à Kagoshima. Kagoshima, c'est le grand ouest de l'archipel japonais. C'est les confins ouest de l'actuel archipel japonais. Il va laisser des traces extrêmement profondes à Kyushu, François Xavier, où il va donc commencer un travail assez important d'évangélisation qui va marcher. Ça marche très bien. Dans le Japon de l'époque, qu'il y ait une secte de plus, puisque pour les Japonais, finalement, les catholiques, c'est qu'une secte de plus, hein, à côté de la flopée de sectes bouddhistes qui existent au Japon. Et par conséquent, ça pose pas un problème qui est finalement une secte de plus, quelle que soit la religion qui s'installe dans l'archipel. Alors François Xavier, il est important, disons qu'il a un impact pour lancer le catholicisme au Japon, mais c'est pas lui qui laisse les textes les plus intéressants sur le Japon. C'est les gens qui vont marcher sur ses pas qui sont intéressants. Et marchant donc sur les pas de François Xavier, il y a un exemple à retenir. Lui, pour le coup, c'est un Portugais, donc il est jésuite aussi. Né en 1532, et il s'appelle Luís Froiss. Alors Luís Froiss, il est l'auteur, c'est pour ça en fait qu'il devient intéressant, c'est qu'il est l'auteur de deux grands ouvrages qui vont vraiment marquer le temps de la connaissance de l'archipel. Il y en a un qui date de 1585. Oui, excusez-moi, il arrive au Japon au début des années 60, 1560. Et donc, quelques années plus tard, enfin un paquet d'années plus tard, puisqu'il est au Japon tout ce temps-là, hein, en fait, il ne rentrera plus jamais hein, en Europe, hein, il va mourir au Japon. En 1585, il sort un traité qui s'appelle le traité de Luís Froiss, et qui a un sous-titre, quand même, et le sous-titre, c'est « Sur les contradictions de mœurs entre Européens et Japonais ». Donc ça, gardez-le quand même en tête, ça m'étonnerait que je vous demande ce genre de choses le jour de l'examen, mais enfin, je pense que ça fait partie des sommes de travail qui sont finalement les premières dans l'histoire de l'Europe et du monde méditerranéen au sens très très large, à véritablement donner des informations sur le Japon, sur l'archipel. Je répète, hein, sur les contradictions de mœurs entre Européens et Japonais. Relativement peu de temps. Alors oui, ce livre, si ça vous intéresse, il a été édité, réédité. Il y a une édition de 1993, je crois, aux éditions Chandaigne. Les éditions Chandaigne, ils rééditent comme ça tout un tas d'ouvrages qui ont une portée, qui ont une valeur de document historique, si vous voulez. C'est pas bon marché, par contre. Hein. Cet ouvrage a été réédité en français. Et Freud va être l'auteur d'un autre très très grand ouvrage, qui est un grand projet d'histoire du Japon. C'est le premier projet d'histoire du Japon. C'est intéressant de voir que la première histoire du Japon n'est pas écrite par des gens de l'archipel. Histoire au sens où on l'entend nous en Europe, c'est-à-dire une discipline qui étudie les systèmes politiques, les modes de vie, la société, la religion, ce genre de choses. Et non pas une conception de l'histoire, on va dire, plus classique, qui est une conception dite de l'histoire en tant que annale, hein, c'est-à-dire les faits simplement rapportés de manière chronologique. Ça existe dans le monde asiatique depuis très très longtemps, et de la même manière dans le monde ancien méditerranéen. Et donc ce projet de grande histoire du Japon, c'est un projet qui va être lancé entre 1583 et 1597. Ça s'appellera Histoire du Japon. Ça part de lui-même. Freud meurt en 97. Donc, c'est-à-dire que finalement, le projet de sa grande histoire du Japon, j'ai pu avoir que quelques fascicules, moi, entre les mains. Et en fait, je ne suis pas certain qu'il ait pu le terminer. Il meurt à Nagasaki, donc, hein, Freud. Alors c'est un personnage qui est intéressant donc pour les Européens dans la mesure où il rapporte tout un tas de documents extrêmement complexes avec énormément de données sur la religion, la politique, qu'est-ce que c'est que l'empereur au Japon. Alors il le décrit, les jésuites et Freud en particulier décrit le Tenno, donc ce qu'après on a appelé l'empereur, comme un pape. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pouvoir politique, mais qui s'occupe essentiellement de rites, de prières. Ils ne le décrivent pas comme un roi, ils le décrivent plus que comme un pape que comme autre chose. Au niveau de l'analyse, c'est d'une finesse qui est quand même assez impressionnante. Les jésuites n'étaient pas des imbéciles, hein, ça c'est pas un scoop. Quoi qu'ils aient pu faire, d'une manière générale, ils laissent une masse de documentation derrière eux qui est quand même extrêmement précieuse pour les historiens. Oui. 97. Non, il meurt normalement. Enfin, on ne sait pas trop bien. Enfin, moins qu'il ait été empoisonné, mais c'est pas une mort violente, quoi. Alors, il est important aussi au Japon même, dans la mesure où il va continuer l'entreprise d'évangélisation de l'archipel. Et surtout, il va rencontrer les puissants de l'époque. Par exemple, en 1560, quand il arrive au Japon, il va rencontrer le shogun de l'époque. Le shogun de l'époque, c'est Ashikaga Yoshiteru. Ça, c'est pas important hein, de le retenir, parce que les shoguns changent à une vitesse supraluminique hein, à cette époque. Donc, il rencontre le shogun, et il va surtout rencontrer un personnage qui va devenir très 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 important, qui est Oda Nobunaga. Je ne sais pas si c'est un nom qui vous dit quelque chose.
Si.
Oda Nobunaga, qui va être l'homme qui va parvenir à la réunification par le feu et le fer du pays. Il rencontre Oda Nobunaga, qui lui voit tout de suite l'intérêt de l'arrivée des jésuites, les canons. Les canons, donc. Hein. Il se convertit d'ailleurs, hein, Oda Nobunaga. Alors Oda Nobunaga, je vais en parler rapidement, pour ce sera fait comme ça. C'est quelqu'un qui a à peu près le même âge que Freud, hein, puisqu'il est né en 32, Freud, et Nobunaga, il est né en 34. Il paraîtrait qu'il se serait bien entendu. Ça, vous savez. En 1860, donc au moment où Freud est dans le paysage, il a terminé de réunifier son clan, Oda Nobunaga. 1560. Ouais, 1860, il aurait vécu longtemps quand même. En 1560, il a terminé de réunifier son clan. Et quand on va dire réunifier, c'est-à-dire qu'il a liquidé pas mal de monde. Il est important à cette époque-là, dans la mesure où il a réussi à écraser deux clans rivaux de son clan depuis plusieurs générations, qui sont les clans Matsudaira, qui sont des clans très importants, et Imagawa. Je vous dis ça à titre informatif, c'est pas la peine de le noter. Enfin, ça, si vous voulez le noter, vous le notez, évidemment. Alors, cette victoire, elle est importante, parce qu'en fait, les effectifs militaires de Oda Nobunaga sont tout à fait modestes, puisqu'il a, entre 5000 et 7000 hommes, on considère, contre plusieurs dizaines de milliers d'adversaires. C'est une victoire tactique, hein, qui lui permet véritablement de gagner une place de renom dans le paysage des seigneurs japonais de l'époque.
Je crois que c'est ça.
Il ne faut pas oublier aussi que c'est encore une époque où on s'étripe gaiement entre seigneurs au Japon. Oui ? Pas au tout début, les canons c'est après. On va y venir. Bon, l'objectif de Oda Nobunaga, très très vite en fait, on le voit dans sa manière de fonctionner, c'est de réunifier le pays. Réunifier le pays, en fait, à l'époque, ça veut dire écraser absolument tous les autres seigneurs féodaux et être le seul qui demeure avec ses alliés. Donc c'est en gros pendant 20 ans, hein, jusqu'en 1582, Oda Nobunaga va marcher de manière assez systématique, régulière et ordonnée sur ses adversaires. Oui ? Non, lui il sera pas empereur, l'empereur il y en a déjà un en fait, c'est ce qu'on appelle le Tenno. Hein. Je reviendrai sur l'institution impériale hein, d'autres fois. Oda Nobunaga, c'est, on va dire, le premier grand seigneur féodal à avoir un pouvoir de domination globale sur l'archipel, en fait. Parce qu'il a écrasé tous ses adversaires et qu'après, il n'a que des vassaux qui lui obéissent. Là où les canons, ça va être quelque chose de clé dans la politique militaire de Oda Nobunaga, c'est qu'en réalité, depuis plusieurs siècles, il y a des organismes religieux et militaires dans l'archipel qui cassent les pieds des seigneurs féodaux. Ce sont les temples bouddhiques de la région du Kansai, notamment. Ça casse les pieds de tout le monde parce qu'effectivement, ils ont du terrain, ils ont de la richesse. Les temples sont dans les montagnes, donc c'est des situations relativement fortes. Et en plus, ils ont plein de militaires. Ce n'est pas des militaires au sens d'aristocratie guerrière, c'est des militaires au sens, ce sont des gens, souvent des gens qui sont un peu miséreux, qui se font moines, entre guillemets. Se faire moine à l'époque, ça veut simplement dire se raser la tête, en fait. Hein. Et à qui on donne une arme et qui deviennent la force armée, si vous voulez, de ce pouvoir religieux. Et effectivement, le Kansai, qui est donc quand même une des tirelires de l'archipel à cette époque-là, est pas dominé, mais ses pouvoirs militaro-religieux sont absolument omniprésents et les seigneurs féodaux rêvent de les écraser pour prendre leur place. Personne n'y arrive au cours des siècles de guerre intestine qui frappe l'archipel depuis le XIVe siècle. Mais Oda Nobunaga va y arriver. Alors forcément, quand vous avez une place forte qui est faite en bois, que vous avez de l'artillerie, tout de suite les choses sont plus faciles. Et donc il va raser de manière absolument méthodique tous les temples de la région du Kansai. Et une fois ceci fait, il va pouvoir, pour de bon, on pourra estimer qu'il aura réunifié, qu'il aura fait tomber sous sa coupe, finalement, militairement parlant, et puis très vite politiquement parlant, une grande partie de l'archipel. Il meurt en 1582, Oda Nobunaga, et au moment de sa mort, donc, le pays est de facto presque complètement unifié. Oda Nobunaga, je vous l'ai expliqué, il s'est converti. Grâce à sa conversion et à son soutien finalement de la politique des jésuites, les jésuites vont pouvoir être extrêmement actifs dans l'archipel. Ça va avoir donc les conséquences que je vous ai décrites tout à l'heure sur la connaissance que l'on peut avoir en Europe de l'archipel. Mais les choses vont changer. À partir de 1598, on assiste aux premières répressions contre les chrétiens, qui vont mettre fin, finalement, à une période assez courte, mais extrêmement vigoureuse, de pénétration du catholicisme dans l'archipel japonais. Alors, je vais expliquer un peu pourquoi. Le successeur de Oda Nobunaga, qui est un de ses vassaux fidèles, c'est Toyotomi Hideyoshi, il s'appelle celui-là. Est-ce que c'est un nom qui vous dit quelque chose, oui. Ça aussi?
Oui.
Oui. Alors ça, c'est encore plus tard. Enfin, oui, mais disons que Toyotomi Hideyoshi, il est vraiment fidèle à Oda Nobunaga depuis le début. Hein. C'est quelqu'un d'extraction extrêmement modeste. Alors que Tokugawa Ieyasu, c'est déjà une famille importante. Et il est vassal de Oda Nobunaga parce que finalement, c'est avantageux d'être le vassal de Oda Nobunaga. Et puis, de toute façon, Ieyasu, son domaine de gouvernement, c'est vraiment l'est de l'archipel. Mais effectivement, les deux grands vassaux avant la mort de Oda Nobunaga sont Toyotomi Hideyoshi et Tokugawa Ieyasu. Tokugawa Ieyasu qui va devenir le premier shogun dans une conception, d'héritage de la fonction de shogun. C'est-à-dire qu'à partir de Tokugawa Ieyasu, à la suite de Tokugawa Ieyasu, tous les shoguns seront des membres de la famille Tokugawa. Alors que jusqu'à présent, la fonction de shogun, c'est une fonction qui est octroyée par la cour du Tenno, donc la cour impériale à Heian, à Kyoto. Et c'est absolument pas forcément quelque chose que l'on hérite comme un titre de roi ou quelque chose comme ça. Toyotomi Hideyoshi, c'est lui qui va signer l'arrêt de la pénétration du christianisme au Japon. Et en faisant ça, en fait, il va limiter la possibilité pour des Européens d'être au Japon, puisqu'effectivement, les Européens qui sont au Japon à cette époque-là, c'est surtout des hommes d'église. Et va également donc limiter les canaux de sortie pour avoir de l'information sur ce qui se passe au Japon. Toyotomi Hideyoshi, il est né en 1536. Donc Freus, Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, c'est en gros la même génération. Lui, il s'est pas fait convertir, hein, Toyotomi Hideyoshi. Donc, il n'est pas aussi, on va dire, chaud pour le catholicisme que pouvait l'être Oda Nobunaga, par exemple. Alors, ce rejet du catholicisme, c'est pas une position idéologique. C'est pas un rejet de la doctrine ou de la pensée chrétienne. C'est un pur calcul, enfin, c'est une inquiétude, parce qu'en fait, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que Toyotomi Hideyoshi, c'est quand même quelqu'un qui est un peu paranoïaque. Hein.
Hideyoshi.
En fait, il découvre avec horreur que dans le processus de conversion assez frénétique au catholicisme des Japonais, parce que le processus est extrêmement rapide et vigoureux, notamment dans l'ouest de l'archipel, hein, il découvre qu'en réalité, les élites politiques, guerrières, l'aristocratie guerrière de l'ouest de l'archipel, a tendance à se convertir en masse, et que lorsque l'on se convertit, ça ne s'arrête pas à ça. Quand on se convertit, on fait don de ses terres au pape. C'est-à-dire qu'en gros, vous devenez vassal du pape, si vous voulez. Le pape devient votre suzerain. Dans le schéma féodal de l'époque. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en réalité, les catégories du Moyen-Âge japonais correspondent tout à fait en termes de valeurs. Alors en France, en Europe, on n'est plus exactement dans le Moyen-Âge, mais enfin, on sait encore exactement très bien ce que c'est qu'un suzerain, un seigneur, des vassaux, tout ça. Et ça correspond bien, en fait. On voit bien que. Tout de suite, Toyotomi Hideyoshi voit où les choses en viennent. Alors. Le pape devient donc propriétaire, d'une certaine manière, de tout un tas de terrains, de territoires assez importants de l'ouest de l'archipel. Alors il est évident que ça n'a pas une importance stratégique bien grande, dans la mesure où c'est sûr que le pape n'est pas vraiment en mesure de faire valoir ses territoires. Il n'a pas d'armée, le pape. En tout cas, pas là. Mais il ne faut pas oublier que, d'une part, pendant des décennies, Toyotomi Hideyoshi, qui a participé à absolument toutes les campagnes de Oda Nobunaga, sait ce que c'est que de se casser la tête à désinguer des organisations religieuses militaires. Or, effectivement, quand vous avez des seigneurs de la guerre de l'ouest de l'archipel qui prêtent serment de fidélité au pape En gros, vous préparez une situation peut-être difficile à terme. Et par conséquent, quand il voit ça, c'est pas quelqu'un qui fait dans la demi-mesure. Toyotomi Hideyoshi fait massacrer tout le monde. Et on a des lignages entiers de l'aristocratie guerrière de l'ouest de l'archipel qui s'éteignent à cette époque. En 1598, en plus, en fait, il faut expliquer pourquoi Toyotomi Hideyoshi tout d'un coup se rend compte de ça et qu'il a le pouvoir de faire massacrer autant de gens. C'est qu'en fait, à cette époque-là, Toyotomi Hideyoshi, il est dans l'ouest de l'archipel. Pourquoi ? Parce qu'il est en pleine campagne de guerre de Corée. Parce que lui, il essaye d'envahir la péninsule coréenne à cette époque-là. 97, 98. Et d'ailleurs, il meurt lors de ces campagnes. Il meurt en 98. Donc en gros, il interdit... Il y a une poussée antichrétienne qui est à son instigation, et puis il meurt peu de temps après. Mais effectivement, il est dans le Kyushu à cette époque-là, et par conséquent, avec ses hommes, ils ont toute l'attitude pour massacrer tout, les gens bien comme il faut. Et comme successeur à Toyotomi Hideyoshi, bon, il va y avoir quelques temps de troubles, des guerres... de succession, mais in fine, c'est Tokugawa Ieyasu, donc l'autre grand vassal de Oda Nobunaga, qui va prendre la succession après avoir pris bien soin d'éteindre la lignée de Toyotomi Hideyoshi en l'espace de quelques batailles. Ce qui fait qu'à partir de 1603, on considère qu'on entre dans ce qu'on appelle l'époque d'Edo, et qui est donc l'époque du gouvernement de la famille Tokugawa. Et Tokugawa en tant que shogun, donc de généralissime, de gouvernant militaire suprême de l'archipel. Oui, Tokugawa. Si. Alors, il y a eu des factions par-ci, par-là, hein, mais d'une manière générale, il faut dire qu'Oda Nobunaga avait quand même bien fait le travail, que Toyotomi Hideyoshi avait bien continué le travail. Et que finalement, Tokugawa Ieyasu, surtout ce qu'il a eu à faire, c'est briser les ligues qu'avait pu créer Toyotomi Hideyoshi. En l'absence de Toyotomi Hideyoshi, c'est pas tellement difficile. Et puis ensuite, d'écraser les descendants de Toyotomi Hideyoshi. En l'espace de quelques batailles, c'est terminé, quoi. Et par conséquent, après, il y a une autoroute hein, qui se déroule devant les pieds de la famille Tokugawa. Il faut vraiment attendre la fin. Bon, il y a des périodes hein, d'instabilité relative, mais d'une manière générale, les Tokugawa ont toujours été en mesure de faire tenir un équilibre politique au sein de l'archipel. Hein. Et c'est vraiment à l'époque d'Edo où cet équilibre commence à se renverser, à se modifier, mais ça on en parlera aussi. Oui ? Alors, dans le cas de Nobunaga, en fait, c'est... Oda Nobunaga n'est pas paranoïaque. C'est la grosse différence qu'il y a avec Toyotomi Hideyoshi. C'est-à-dire qu'Oda Nobunaga, qui sait exactement ce qui est en train de se produire, il voit surtout l'intérêt de donner des garanties au monde catholique européen pour pouvoir bénéficier de mousquets, de canons, de tout un tas de pièces d'artillerie, de formations... de fantassins. Enfin, il y a un intérêt pour la chose militaire chez Oda Nobunaga qui est supérieur, on va dire, aux considérations de alors un tel devient le vassal du pape ou ce genre de choses-là. Puis par ailleurs, Oda Nobunaga, il n'est pas bête. Il se rend très bien compte que de toute façon, dès qu'il y en a un qui va faire un pas de travers, il suffira de zigouiller les gens comme il faut. Le problème de Toyotomi Hideyoshi, c'est que c'est quelqu'un qui est un peu obsédé par l'ombre, en fait, de Oda Nobunaga, et qui est en permanence, qui se croit en permanence obligé de justifier ses choix. Il est tout le temps en train de montrer que sa posture de nouveau gouvernant de l'archipel, c'est une posture forte, et donc il a tendance à en rajouter tout le temps. Et c'est aussi pour ça qu'il va prendre ses dispositions extrêmes. Oui ?
Il faut que je m'achète les bouquins.
Alors, pour ce qui s'est passé de la Corée, ça s'est pas passé beaucoup, en fait, hein, parce que ça a été court, ça a été assez horrible, dans le sens où les troupes de Hideyoshi ont débarqué en Corée, étaient en train de bien réussir hein, à prendre possession de la Corée, quoi. Mais bon, mais il est mort, quoi. Donc, ça s'est terminé. C'est le problème, si vous voulez, des sociétés non étatiques. C'est-à-dire que vous avez des gouvernants extrêmement puissants, avec un pouvoir, une armée... Mais tout tient à leur personnalité, en fait. Et quand ces gens meurent, tout retombe. Et il faut tout reconstruire. Et la différence avec l'État, c'est que l'État, ben on le voit avec les guerres à partir du moment où on a un État, à partir du moment où on lance un pays en guerre, c'est pas parce que le roi va mourir que la guerre va s'arrêter. Il y a tout l'appareil d'État qui continue à tourner, qui continue à soutenir un effort de guerre, hein, ce genre de choses. Et là, on est vraiment dans des sociétés qui sont encore des sociétés pré-étatiques ou entre-étatiques, puisque finalement, c'est plus l'Antiquité, c'est pas encore l'époque moderne. Et là, on est un peu entre les deux, quoi. Ce qui fait que, oui, effectivement, à la mort de Toyotomi Hideyoshi, on va dire que le soufflet retombe et que les troupes de l'archipel refluent, quoi, hein, tout simplement. Mais sinon, on a rasé des villes, on a massacré des civils, on a liquidé des aristocrates locaux. Enfin, ça marche bien, quoi. C'est une guerre de conquête qui fonctionne, si vous voulez. Mais ça va pas très loin, ça va pas très loin. Puis s'y prend aussi comme un pied, c'est-à-dire qu'au niveau du ravitaillement, ça marche pas bien, quand même. Donc sur le plan de la suprématie militaire, c'est écrasant, si vous voulez, mais au niveau de la logistique, il s'y prend pas très bien, Tommy Hilley aussi. Il faut aussi reconnaître que l'instrument de production agricole de la Corée est un instrument qui est beaucoup moins performant que celui de la Chine ou que celui du Japon à la même époque. On a des étendues de rizières qui sont moins importantes, on a des étendues de champs qui sont moins importantes. Le relief coréen fait qu'on produit moins sur le plan agricole, que par exemple dans l'archipel. Et donc ça crée des pressions sur les biens de subsistance qui font qu'en réalité, même quand les Japonais, enfin les Japonais, c'est trop tôt de parler de Japonais, mais même quand les troupes de Toyotomi Hideyoshi rentrent, en réalité les conséquences de la guerre sur la Corée vont être dévastatrices pendant encore des années. Parce que comme on a détruit les infrastructures de production, comme on a détruit des tas de choses, en fait, va s'en suivre des années de famine en fait, hein, en Corée. À l'époque, on ne parle pas de Corée, le terme, c'est Chosin. Il y a des tas de termes en réalité. Tokugawa Ieyasu donc, va prendre la suite et il va poursuivre sur la lancée de Toyotomi Hideyoshi. Il n'a pas une politique originale sur le plan de la religion, dans la mesure où il va continuer, il va même renforcer le ban sur la religion, sur les religions, on va dire, non autochtones, avec des guillemets autochtones. On interdit le catholicisme. En 1616, on décide la fermeture du pays, ce qu'on va désigner par le terme de sakoku, en japonais. Hein. Koku, c'est pays, ça, c'est enchaîné, cadenassé, c'est donc fermé, hein, si vous voulez. Et en 1633, on va décider que les gens de l'archipel qui ont résidé plus de 5 ans à l'étranger ne seront plus autorisés à rentrer au Japon. 1633. Là, on est au 17e maintenant. Donc 1616, le sakoku, la fermeture. 1633, l'interdiction de retour des Japonais établis à l'étranger, si vous voulez. Et on sait qu'à cette époque, il y en a beaucoup, 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 notamment en Asie du Sud-Est. Ben, y a pas la nationalité n'existe pas, si vous voulez, mais ils ont le droit de rentrer. Donc les comptoirs commerciaux établis par des Japonais en Asie du Sud-Est, ben oui, les gens se retrouvent coincés dans les comptoirs commerciaux en Asie du Sud-Est. Donc, bah, ils se mélangent avec les populations locales, ou ils se font massacrer, ou enfin, il y a tout un tas de cas de figure. Hein, non, ça, quand même. Oui. Absolument. C'est-à-dire que le commerce extérieur d'État cesse. Après, à titre, on va dire privatif et dérogatoire, il y aura encore des échanges avec le monde extérieur, mais ces échanges deviennent quand même tout à fait mineurs par rapport au commerce. Par exemple, entre le XIIIe et le XVIe siècle. C'est un côté paradoxal, parce qu'en fait, du XIVe jusqu'au XVIe siècle, le Japon est en guerre intestine, en guerre civile en permanence, et pourtant, sur le plan du commerce, c'est une période extrêmement florissante. Et l'avènement de l'État, d'un État centralisé, donc au début du XVIIe, signe, en fait, la fin du commerce extérieur. Et en même temps, ça va permettre aussi au pouvoir politique, au nouveau pouvoir politique de l'archipel, de structurer les échanges commerciaux à l'intérieur de l'archipel, hein, notamment politique de construction de routes, de tout un tas de choses comme ça, qui vont renforcer en fait le commerce à l'intérieur du pays. Et puis en 1634, on signifie aux Occidentaux que c'est plus la peine de venir, et on fixe un comptoir fait une espèce de lentille, une interface avec le monde extérieur et le monde européen en particulier, sur une petite île artificielle qui est juste à côté de Nagasaki et qui s'appelle Dejima. Cette île de Dejima, il n'y a que les Hollandais qui ont le droit d'y mouiller. Et donc, ça veut dire que le commerce extérieur au Japon ne se fera essentiellement qu'au travers de cette interface-là. Et c'est pas que le commerce, c'est aussi les échanges d'informations. On sait que beaucoup d'ouvrages en langue hollandaise vont rentrer au Japon par cet endroit-là. Et ça va devenir le seul sas entre l'archipel et le monde extérieur. Alors, maintenant, les historiens ont tendance à relativiser cette fermeture. On ne la présente plus comme étanche, puisque pendant très longtemps, on a considéré que voilà, le Japon était vraiment replié, vraiment refermé, qu'il n'y avait plus aucun contact ou très peu. Il semblerait quand même que, sous le manteau, il y a eu pas mal de choses. Ce qui n'est quand même pas très étonnant, quand vous prenez une carte et que vous regardez le relief de côte du Japon, c'est absolument impossible de contrôler un relief aussi découpé. La contrebande, les débarquements non déclarés, tout, il y a dû y en avoir quand même un paquet. Alors du côté européen, cette fois-ci, ces événements vont rester extrêmement marquants. D'une part, la persécution, les persécutions rapides mais très féroces des catholiques, et d'autre part, les martyrs, si vous voulez, on va en faire des martyrs, et d'autre part, la fermeture politique du pays. Alors, pour les martyrs, c'est surtout les jésuites qui s'emparent de ça en Europe. Et ce qui est un peu décevant, si on compare à la production intellectuelle qu'ont pu avoir les jésuites sur l'archipel pendant quand même quelques décennies, ce qui est un petit peu décevant, c'est qu'alors qu'on sait vraiment que les conversions ont extrêmement bien marché sur les populations de l'archipel à ces époques-là, les martyrs, dont il est question dans la martyrologie européenne à cette époque-là, ce ne sont que les martyrs européens. On ne parle absolument pas des populations civiles japonaises qui ont vraiment été massacrées au moment des répressions. Ce qui est une conception du martyr qui est quand même assez sélective, c'est le moins qu'on puisse dire. Après, sur la fermeture du pays, ça va laisser des traces. À l'époque des Lumières, notamment en France, on va beaucoup en parler. Le Japon va devenir un objet de discours alors qu'on ne peut même plus y aller. Ça, je vais y venir dans un instant. Dans la France du XVIIe siècle, après la fermeture donc complète, on va dire, de l'archipel, ça veut dire qu'effectivement, l'archipel, ça devient très difficile de se renseigner dessus. Mais pourtant, il ne faut pas perdre de vue, c'est-à-dire que cette fermeture de l'archipel ne doit pas faire perdre de vue qu'à cette époque-là, en Europe, il y a un redoublement de l'intérêt à l'égard de tout ce qui est oriental, asiatique et extrême-oriental, en général. Par exemple, en 1669, vous avez Colbert, donc le ministre que vous connaissez, qui va créer en fait Langzhou. Langzhou, au début, ça s'appelle l'école des jeunes de langue. C'est comme ça que ça s'appelle. En 1669, est créée donc l'école des jeunes de langue, qui témoigne bien qu'en fait, dans les politiques internes des pays européens, enfin, en tout cas celle de la France, l'Orient reste une priorité extrêmement grande. Mais c'est vrai que dans le cas de la France, c'est surtout pour échanger avec l'Empire ottoman et le Proche-Orient. Et donc l'école des jeunes de langue a d'abord pour objectif de former des interprètes en turc, en arabe, en persan et en arménien. Et c'est donc, si vous voulez, la première jeunesse de l'actuel INALCO, quoi. Et puis, c'est l'époque des Lumières. Si vous voulez. Alors, il y a quand même des gens qui vont savoir utiliser Dejima de manière assez sympathique. C'est assez sympathique, ça c'est un côté un peu aventurier. Et un de ces personnages qui va rester en fait pour nous important, c'est un Allemand du nom de Engelbert Kämpfer. S'appelait Raoul. Marseille, Engelbert Kemper. Ce qui est donc allemand, il est né en 1651, il est mort en 1716. Il fait partie de l'élite intellectuelle du XVIIe siècle européen. Il fait des études de médecine et d'histoire. Donc c'est quand même un esprit assez universel. En tout cas, à l'époque, c'était l'histoire, la philosophie, la médecine. C'était ce qui permettait d'englober un peu l'univers tel qu'on le concevait à l'époque. Et il est médecin de la Compagnie hollandaise des Indes orientales. Et c'est là où ça devient important pour nous. De 1688, ah oui, bon, la Compagnie hollandaise des Indes orientales, c'est donc la compagnie de commerce hollandaise qui écume toute l'Asie et qui est la seule à avoir le droit de mouiller justement à Dejima, donc au Japon. La Compagnie hollandaise des Indes orientales, les Indes orientales.
Monsieur ?
Oui ?
Vous pouvez me dire les dates de
Kempfer ? Oui, alors il est né en 1651 et il est mort en 1716. Alors lui, il va écumer les mers d'Extrême-Orient avec la flotte de la compagnie entre 1688 et 1690. Puis, en 1690, il arrive à Dejima, où il se fait passer pour hollandais. Parce que comme il est allemand, il n'aurait théoriquement pas le droit de débarquer. Et là, il va séjourner au Japon pendant 2 ans. Et grâce à son statut de médecin, en réalité, hein, puisque, en fait, il va être appelé un peu partout au Japon, dans l'archipel, il va beaucoup bouger, sous bonne escorte, d'accord, mais il va beaucoup bouger dans la mesure où, en tant que médecin, il est appelé à droite à gauche auprès de tel seigneur, auprès de tel autre seigneur, pour soigner et guérir des personnages importants, dans la mesure où, effectivement, bon, la médecine, à l'époque, en Europe, il ne faut pas non plus trop se gargariser, c'est pas si extraordinaire que ça, quand même, hein, mais c'est quand même, pour tout un tas d'affections, c'est quand même... ça guérit quand même plus de choses que la médecine, on va dire, chinoise. Alors il séjourne au Japon pendant 2 ans, où il va beaucoup marcher, là, pour le coup, et il va être l'auteur d'un livre que tout le monde va lire dans l'Europe du XVIIIe siècle. Donc il y a un décalage, hein, si vous voulez, mais il va être l'auteur d'un livre que tout le monde aura lu, que tout le monde va commenter. Et ce livre, qui a été traduit dans plein de langues, en Europe, c'est pour ça qu'on sait que tout le monde l'a lu, c'est qu'il revient et puis le livre va être traduit dans de nombreuses langues. Ce livre, il s'intitule « Histoire naturelle, civile et ecclésiastique de l'Empire du Japon ». Alors là, c'est pareil, il y a quand même beaucoup d'éléments intéressants dans cet ouvrage. Moi, je me souviens qu'il y a quelques années, j'avais essayé de voir s'il n'avait pas été réédité dans quelque chose de... Je relirai le titre, ne vous inquiétez pas. Et j'avais essayé de le trouver. Et en fait, j'étais tombé sur des PDF téléchargeables sur Internet. Donc, si ça vous intéresse, vous devriez être en mesure de les retrouver, je pense. Alors, je redonne le titre, hein, parce qu'il est long quand même. « Histoire naturelle, civile et ecclésiastique de l'Empire du Japon ». La traduction française, si je ne me trompe pas, c'est 1727, 1728 ou quelque chose comme ça. Donc c'est après la mort, hein, de Kempfer. Ce qui est intéressant, c'est qu'il donne une image plutôt positive de l'archipel, notamment sur le plan hygiénique. C'est assez... de ce point de vue-là, on voit bien que c'est un médecin. Hein, notamment sur tout ce qui entoure la naissance et compagnie. Il explique qu'au Japon... les femmes meurent moins en couche que en Europe pour des raisons d'hygiène. Et au-delà de ça, ce qui est intéressant, et là pour le coup ça renseigne davantage sur l'Europe que sur le Japon, mais c'est intéressant, ça permet d'avoir un rappel sur le fait que les textes, ils sont datés, ils ont une histoire, ils sont inscrits dans un contexte historique. C'est que, en fait, tous ces écrits, il y a de nombreux passages en fait qui sont teintés d'anticatholicisme. Ce qui n'est pas étonnant, il est allemand, hein, c'est un pays de réforme, donc il est protestant, quoi, si vous voulez, pour simplifier. Et donc, il ne rate pas une occasion pour griffer, si vous voulez, l'image du catholicisme. Alors son propos sur le Japon, en gros, sert sa cause européenne, on va dire, d'opposition entre pays de réforme et pays catholiques. Et grâce à ce texte, finalement, le Japon va se retrouver propulsé juste un petit peu avant le milieu donc, du XVIIIe siècle, puisque, comme je vous le disais, hein, les traductions sont quand même plus tardives. Le Japon va se retrouver propulsé au milieu de tout un tas de discours de type universaliste, et on va essayer de mettre le Japon à l'intérieur du système de pensée qu'on est en train de construire en Europe à cette époque-là. Et il y a pas mal de choses qui sont très 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 amusantes, je vais venir là-dessus. Oui ? Oui, il s'est fait prendre. C'est-à-dire que, en fait, quand il est arrivé en Hollande, enfin quand il est arrivé au Japon, il s'est fait passer pour hollandais. Et il y a des gens qui lui ont dit que quand même il avait un drôle d'accent quand il parlait en hollandais. C'est-à-dire qu'au Japon, il y avait des gens qui étaient quand même capables, à l'époque, de dire à des occidentaux parlant hollandais que quand même là ils avaient un accent par rapport au hollandais habituel qu'on entendait. Et alors Kempfer, lui, son argument, ça a été de dire qu'en fait il venait de Yama-Hollanda. Donc c'est la montagne reculée de Hollande. La Hollande, ça s'appelle le plat pays, ça, c'est pas très montagneux, quoi, si vous voulez. Et ça a marché un certain nombre de temps, et puis un jour on s'est rendu compte que en fait c'était du pipeau et il s'est fait jeter, quoi. Mais il s'est pas fait tuer quand même.
Il a de la chance.
Ça, c'est un peu la légende, en fait. Hein. C'est une anecdote qui circule au sujet de la fin du séjour de Kempfer là-bas. Mais en fait, c'est pas certain. On n'a pas de documents que l'on puisse qualifier de preuve historique là-dessus. Mais c'est l'histoire qui circule à son sujet. Moi, ce qui me surprend, c'est que théoriquement, les pouvoirs publics à l'époque au Japon ne sont pas des pouvoirs qui ont beaucoup le sens de l'humour. Donc, les pouvoirs publics n'ont pas souvent le sens de l'humour, ceci dit. Mais, en tout cas, il sauve sa peau, dans tous les cas. Mais en tout cas, il écrit ce livre qui va permettre au Japon d'avoir une présence in abstientia, hein, comme on dit, en absence. Le Japon, sans être là, va être là dans le discours des Européens, des Lumières de l'époque. Et ça vous donne, par exemple, Montesquieu, qui parle du Japon dans l'esprit des lois, et qui juge le Japon comme un pays mauvais, un mauvais pays, avec des lois trop fortes. C'est à mourir de rire quand on sait qu'on est en pleine époque de l'absolutisme royal en France, et que les lois fortes en France, quand même, on sait faire, hein, au XVIIIe siècle. C'est vraiment l'hôpital qui se fiche de la charité, hein. Et voilà ce qu'il dit en gros du Japon. Il s'étonne, pour faire simple, il s'étonne, et là je cite, du caractère étonnant de ce peuple opiniâtre, déterminé, capricieux, bizarre. Il a le droit d'avoir son opinion, il a aussi le droit de se taire. Hein. Mais bon, on a une époque où il faut que tout le monde parle de tout. Hein. C'est un peu comme aujourd'hui. Vous avez Voltaire aussi. Là, Voltaire, c'est plus révélateur, à mon sens. C'est plus intéressant, en fait, ce que dit Voltaire. C'est aussi, on va dire, à côté de la plaque, mais c'est plus intéressant. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Voltaire, il est l'auteur d'un livre que vous connaissez probablement. Enfin, peut-être qu'il n'est plus au programme, mais c'est un livre qu'on voyait, moi je me souviens, quand on était au collège ou au lycée, je ne sais plus très bien, qui est un livre de 1756 qui s'appelle « Essais sur les mœurs et l'esprit des nations ». C'est quelque chose qui vous dit quelque chose ? Oui, donc c'est toujours au programme probablement. Alors. Et il écrit sur le Japon, enfin, il écrit sur tout un tas de pays, hein. Tous les pays y passent dans ce livre. Et il écrit sur le Japon, je cite, « Ce royaume boude notre continent à l'est comme nous le boudons à l'ouest. » Ouais, c'est intéressant. Je ne sais pourquoi on a appelé les Japonais nos antipodes en morale. Il n'y a point de pareils antipodes parmi les peuples qui cultivent leur raison. Alors c'est intéressant parce qu'on voit qu'on est face à des gens qui essaient de construire un modèle universel. Et que donc la morale, la raison, c'est supposé être universel. Et à partir du moment où quelque chose ne correspond pas à ces critères universels de la raison, vous allez dire, c'est pas des antipodes, c'est simplement que c'est pas la raison, c'est pas la morale. Ça c'est le propos de Voltaire. Et puis bon, ce qu'il dit sur ils nous boudent à l'est comme nous on va le bouder à l'ouest, en gros ça veut dire bon ben ils ont fermé, on peut pas y aller, donc on n'y va pas. Oui, mais c'est un peu ça. Et donc, ce qui est intéressant, ce qui est révélateur, c'est qu'en fait le Japon se pose dans ces discours-là comme un contre-exemple. C'est un contre-exemple. On a une époque où tout s'accélère, le commerce international s'accélère. C'est l'époque des grands navigateurs, c'est l'époque de la cartographie, c'est l'époque où la circumnavigation, c'est-à-dire le tour du globe, se fait en navire de manière assez... Enfin, il y a plusieurs cas de figure. C'est une époque de progrès généralisé sur le plan technique. Et alors que tout est à la tendance à l'ouverture, là, on a un pays qui pourtant est relativement riche, avec un État centralisé, avec... une bourgeoisie avec une économie qui fonctionne relativement pas mal et isolationniste. Donc c'est vraiment le contre-exemple de l'universalisme, en fait, de ce que conçoit l'universalisme. Donc en fait, le Japon en tant que contre-exemple, il est agaçant pour ces gens-là. C'est agaçant. Ouais, on a des beaux modèles et des belles théories générales qui marchent partout, qui marchent d'autant mieux qu'en fait les gens sur lesquels on les applique n'ont pas la possibilité de répondre à ça. Mais dans le cas du Japon, on a quand même face à un État qui est quand même relativement puissant et qui répond pas à ces critères de raison des universalistes. Donc ça les énerve. Et donc par conséquent, que ce soit conscient ou inconscient, il s'agit finalement de discréditer, de disqualifier le Japon en tant qu'horizon incompréhensible. Par ailleurs, le fait de dire à peu près n'importe quoi sur ce qu'on ne connaît pas, notamment sur les territoires les plus éloignés de chez nous, c'est quelque chose qui, là, pour le coup, est universel. Ça, pour le coup, c'est universel. Je veux dire, de nos jours, vous pouvez... Si vous vous mettez à raconter n'importe quoi sur l'histoire de l'Europe, par exemple, ou sur l'Europe, ce que vous voulez, mais en Europe, c'est-à-dire à peu près chez nous, vous n'allez pas être en mesure de dire longtemps n'importe quoi, pour la simple et bonne raison qu'il y a des garde-fous qui vont vous rappeler à l'ordre. Mais dès qu'on parle des barbares, des contrées exotiques, de tout ce qui est un peu loin, tout de suite c'est moins important d'être rigoureux, on a l'impression. C'est-à-dire que les critères de rigueur qu'on s'applique à nous en Europe, dès qu'il s'agit d'endroits un peu plus lointains, un peu plus exotiques, on a l'impression que tout d'un coup on n'a plus besoin d'être rigoureux, et qu'on peut se contenter de raccourcis simplistes, de jugements vite forgés, de culturalisme, voire carrément d'inventer des trucs, quoi. Et ça, c'est toujours vrai, en fait, de nos jours. Hein. C'est assez intéressant de le constater. Sauf que maintenant, en plus, on a la force des médias qui est terrible et qui vous fait croire qu'en fait, le n'importe quoi qui vous est expliqué, c'est vrai. Donc il faut vraiment vouloir aller vérifier si c'est vrai ou si c'est faux, pour pouvoir rendre compte des choses, en fait. Oui.
Oui, mais dans le cas de Montesquieu, c'est plutôt un procédé littéraire qui oui. repose sur le principe de relativité.
Oui, oui, oui. Dans le cas de Montesquieu, disons que je suis un peu de mauvaise foi, si vous voulez, parce que c'est rigolo, mais dans son approche relativiste, si vous voulez, il est légitime, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il prend un exemple sur lequel il n'est pas en mesure de discuter. Le Japon n'a pas à figurer dans son texte. À partir du moment où il ne sait pas, à partir du moment où il raconte n'importe quoi, il a pas à utiliser le Japon comme matériau dans sa réflexion, si vous voulez.
Oui, mais c'est plus un
oui, mais je suis d'accord, si vous voulez. Mais par ailleurs, quand on sait ce que Montesquieu est capable de produire en termes de raisonnement rigoureux, en termes de construction logique et intellectuelle, c'est d'autant plus impardonnable de finalement fabriquer une espèce d'image qui n'existe, enfin une image, de la plaquer sur une réalité qui n'existe pas, parce que le Japon existe, hein. Et on va y plaquer quelque chose dessus qui ne correspond pas à la réalité, simplement comme un, comme vous dites, hein, c'est un subterfuge, hein, dans une démarche littéraire. Le problème, c'est que les gens qui vont le lire, Montesquieu à l'époque, parce qu'on le sait, ça va avoir un impact. C'est-à-dire qu'après, ce que Montesquieu va avoir dit sur le Japon, on va le retrouver dans d'autres écrits ultérieurs, indexé de manière directe, quoi, si vous voulez.
De toute façon, le livre a été mis à l'index, donc...
Oui, enfin bon, pas de... il a été mis à l'index, il y a quand même beaucoup de gens qui l'ont lu. Hein. Oui. Si. Oui, et donc Montesquieu dit des trucs négatifs. Parce qu'il prend le contre-pied, en fait. Ce qui est intéressant, Montesquieu, c'est de le lire par rapport à Kempfer, par exemple. Kempfer explique, justement, sur le système juridique, pas juridique, il ne faut pas exagérer, mais sur les lois, comment réglementer la société japonaise. Et effectivement, il décrit un cadre qui est extrêmement rigoureux. Et les arguments, en fait, de Montesquieu pour dire que les lois sont trop fortes, il les pique dans Kempfer, qui pourtant les rapporte sans aucun jugement de valeur, et plutôt, il est plutôt dans le positif, si vous voulez, que dans le négatif, quoi. Et Kempfer relativise beaucoup, en fait. Pour le coup, dans le cadre d'une pensée relativiste, Kempfer est beaucoup plus convaincant que beaucoup d'ouvrages plus universalistes du XVIIIe siècle, puisque justement, il relativise avec des exemples concrets. Il prend le cas du Japon, il cite un exemple concret, et il va évoquer tel exemple en Europe concret aussi. Donc c'est un pouvoir de conviction qui est quand même plus important que des réflexions théoriques un peu comme ça. Bon, mais Kempfer, ça va être la dernière fenêtre sur l'archipel pendant très 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 longtemps. Et en fait, il va falloir attendre pour les prochaines données, on va dire, un peu fraîches, un peu fiables sur l'archipel, il va falloir attendre ce qu'on appelle le grand 19e siècle, c'est-à-dire la toute fin du 18e siècle, tout le 19e siècle, jusqu'à la guerre de 14 à peu près. Hein. C'est ce qu'on appelle le grand 19e siècle, ou le long 19e siècle. Mais ça, c'est pendant le grand 19e siècle. Péri, c'est 1853. Donc c'est le 19e siècle. Donc on y va. Vous allez voir. Et je prends le grand 19e siècle parce qu'en réalité, l'intérêt que l'on va porter au Japon à nouveau, en Europe et puis aux États-Unis cette fois-ci, il découle de problématiques qui se mettent en place doucement à partir de la fin du 18e siècle, qui sont des problématiques de connaître davantage le monde. Hein. L'essor, par exemple, des empires coloniaux européens, dans le cas de la France, c'est 1830, ça commence véritablement en 1830, oui, c'est 1830, et en Asie, on commence à y être de manière un peu importante dans les années 1840. Et donc, le Japon va redevenir un objet d'actualité, dans la mesure où, quand vous avez une flotte de guerre et de commerce en Extrême-Orient, que ce soit pour la Chine, l'Indochine dans le cas de la France, et tout un tas d'autres territoires en Inde et compagnie, le Japon devient intéressant. Et c'est dans ce contexte-là que le Japon va retrouver une place dans les réflexions, dans la pensée et dans la stratégie politique des puissances européennes et de la puissance américaine, qui est la nouvelle puissance de ce 19e siècle, quoi. Oui ? Alors, le problème, c'est que, oui, disons qu'il y a des exemples, mais c'est plus continental, et en fait, ça ne sert pas d'exemple, parce que ça ne dure pas longtemps. Généralement, ils finissent par être... ça finit par une conquête, et puis c'est terminé. La velléité isolationniste, c'est quelque chose qui est assez bien documenté, et assez fréquent, en fait, hein, en histoire. Le problème, c'est que effectivement, quand c'est continental, vous avez quand même du mal à empêcher les gens à rentrer chez vous, quoi. Dans le cas du Japon, il se trouve qu'on leur a de fait un peu fichu la paix, quoi. Hein. Donc ça a pu fonctionner sur ce mode du vase clos, hein, pendant des siècles. Ben, en tout cas, ça définit... c'est ce qu'on appelle l'époque d'Edo. C'est véritablement le creuset d'une culture qui est particulière, qui n'est plus la culture médiévale et qui n'est plus la culture antique. C'est encore un troisième temps, on va dire, dans la fabrication d'une culture du Japon. Ben non, parce qu'en fait, ça on en parlera après, c'est qu'après on retombe dans une phase d'expansionnisme japonaise quand même très vite à la fin du 19e siècle, laquelle va coïncider avec un autre mode d'existence de l'identité, qui là va être une identité en expansion. La première identité, on va dire, des Japonais, en tant que Japonais, c'est une identité en expansion. C'est pas une identité insulaire, en fait. C'est ça qui est intéressant. Vous avez des sociétés, vous avez des communautés au Japon pendant l'époque où le Japon est fermé, si vous voulez. Donc il y a une insularité, on va dire. Mais c'est pas l'insularité qui est importante au niveau de l'identité. des communautés dans l'archipel, c'est davantage le fait de faire partir de telles communautés, de tels villages. C'est plutôt ça qui est important. Quelle heure il est? Ah, ben c'est l'heure, non? Oui, c'est l'heure. Bon, ben je continuerai la semaine prochaine. Voilà.
Écriture curtie, vraiment très curtie.